Radio Vatican, France-Afrique.
Mes auditeurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Après les activités du pape au cours de la journée de vendredi, nous vous informerons de la vie de l'église Famille de Dieu qui est en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Également dans cette édition, l'actualité sociopolitique africaine. À tous et à toutes, merci d'être des nôtres. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Les participants à l'assemblée plénière de la Congrégation pour la doctrine de la foi ont été reçus vendredi par le pape François. Ceux qui veillent sur l'intégrité féconde de la doctrine catholique ont été encouragés à poursuivre leur mission avec discernement, en particulier dans la lutte contre les abus. Le compte rendu de Xavier Sâtre.
Le peuple de Dieu doit recevoir des indications sûres et solides en matière de foi et de morale, a rappelé le pape. Par exemple, face à de prétendus phénomènes surnaturels et en réponse à un besoin spirituel croissant. Les membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi doivent donc sans cesse recourir au discernement pour lutter contre les abus de toutes sortes. Le pape François les a encouragés notamment à s'appuyer sur une action judiciaire plus incisive. L'action judiciaire ne peut suffire à endiguer le phénomène des abus, a-t-il reconnu, mais elle est une étape nécessaire pour rétablir la justice, réparer le scandale et amender le délinquant. Le discernement s'impose aussi dans les cas de dissolution du lien matrimonial ou encore dans le processus synodal. Un synode dont le personnage principal est bien l'Esprit Saint, a rappelé François, et non un simple questionnaire ou un sondage. Le pape a par ailleurs remercié la Congrégation pour la doctrine de la foi pour sa défense de la dignité humaine. Il l'a aussi invité à promouvoir une foi non pas générique ou vague, mais authentique et directe. Sans la foi, la présence des croyants dans le monde se réduirait à celle d'une agence humanitaire, a-t-il averti. La foi doit être au cœur de la vie et de l'action de tout baptisé.
Le 23 janvier prochain, troisième dimanche de la parole de Dieu, sera marqué par une messe célébrée par le pape François à 9h30, heure de Rome, en la basilique Saint-Pierre. Pour la première fois, des laïcs, hommes et femmes, recevront du Saint-Père les ministères du lectorat et de catéchistes. L'événement sera retransmis en direct et diffusé sur le portail vaticannews.va, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux associés, ainsi que sur les ondes courtes de 17 540 kHz avec commentaires en français pour les canaux francophones. En Afrique du Sud, les évêques de l'Afrique australe se réunissent pour la première fois depuis 2020. Ils ont ouvert jeudi leur session plénière au séminaire Saint-Jean-Vianney à Pretoria. Dans son homélie, Mgr João Rodrigues, évêque de Nzanin, a notamment évoqué les conséquences sociales de la crise pandémique. Il a rappelé les pillages massifs survenus en Afrique du Sud en juillet 2021. « Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chose se produise si rapidement dans notre pays. L'évêque a souligné que la division et le désordre ne proviennent pas des différences entre les personnes, mais de la manière dont ces différences sont utilisées pour provoquer la division. La communion de Dieu qui nous lie est plus puissante que les différences qui nous tentent à la division et au désordre, a-t-il souligné. Au Bénin, parlons de cette recollection des évêques du pays. Guido Souyovo.
En prélude à leur 65e session ordinaire qui a lieu au siège de la conférence épiscopale du Bénin à Cotonou, les 19, 20 et 21 janvier 2022, les évêques du Bénin ont vécu une récollection le mardi 18 janvier à Donatin. C'est ce même jour que le tout nouveau directeur de la communication des évêques, le père Anissé Nyanvi, a pris service, succédant ainsi au père Eric Okweicha. Il nous en a dit un mot.
Après la journée de récollection, ils sont revenus, ils sont allés à la rencontre des trois nouveaux qui doivent entrer en fonction à la conférence épiscopale du Bénin. Il y avait le père Augustin Tossou, secrétaire administratif, la sœur Julienne Amadjipé, qui va travailler dans le secteur de l'accord cadre, et moi-même, père Anissé Yanvi, nouveau directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Je m'inscris dans la continuité de l'œuvre si bien conduite par mon prédécesseur, le révérend père Eric Okweicha.
La messe d'ouverture de la session a été présidée le mercredi 19 janvier par l'évêque d'Abomey, vice-président de l'institution, Monseigneur Eugène Cyril Hondekon. Le prélat à l'homélie a conduit les participants à comprendre en quoi la grâce de Dieu peut beaucoup contribuer à renverser des situations humainement désespérées.
David et Goliath sont devenus le symbole légendaire du triomphe de la cause de la faiblesse sur la loi du fort, de l'espérance qui ne déçoit pas sur les difficultés humainement insurmontable.
En Côte d'Ivoire, les militaires et paramilitaires catholiques du diocèse de Yopougon ont célébré dimanche 16 janvier leur traditionnelle activité dénommée le Nouvel An du Soldat. Marcel Aristonblé.
Nouvel An du Soldat, édition 2022 de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de Yopougon. Les militaires et paramilitaires catholiques ont rendu grâce à Dieu pour l'année écoulée, mais également confié l'année 2022 au Seigneur dans la joie avec leur famille dans le village d'Adiapoté, route de Dabou à quelques kilomètres de la ville d'Abidjan. Dans son homélie, le père Paul-Émile Tito Kadja, leur aumônier diocésain, les a invités à mettre leurs différents charismes au service de leur aumônerie.
C'est l'occasion, nous basons sur la seconde lecture que nous avons médité aujourd'hui pour les invités, vraiment selon chacun, selon son charisme, selon ses aptitudes, selon ses dons, de les mettre au service de l'aumônerie pour le bien-être de l'aumônerie et pour l'avancée surtout de l'aumônerie.
Acquérir un terrain pour la construction d'un siège, tel est l'objectif que s'est fixé cette aumônerie en cette année 2022. La lieutenant-colonel Nicole José Akeyapo, première vice-présidente, a appelé ses frères et sœurs d'armes à la mobilisation.
On n'a pas de siège, on n'a pas de bureau et parfois on ne sait pas où se retrouver. Donc au lieu d'errer dans la nature, il est bon que nous ayons quelque chose qui nous appartient. Et c'est vraiment notre objectif premier pour cette année 2022.
Notons que c'est dans une grande allégresse que les militaires et paramilitaires catholiques du diocèse de Yopougon et leurs familles ont pris part à cette édition 2022 du Nouvel An du Soldat. Une activité qu'ils veulent voir se perpétuer au vu de son importance et de son impact sur leur foi.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 4 Tunisiens ont péri et 7 autres sont portés disparus après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la ville tunisienne de Sfax, au centre-est. Selon les témoignages, il y avait 32 migrants à bord, tous tunisiens. Les opérations de recherche pour retrouver d'autres disparus se poursuivent. Les réfugiés érythréens dans la région éthiopienne en guerre du Tigré sont en grand danger en raison de la détérioration de la situation humanitaire, a averti vendredi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR. Après 3 semaines sans accès en raison de la sécurité, le personnel du HCR a réussi à atteindre les camps de réfugiés de Mahi Aini et Adi Arouche au Tigré en début de semaine pour la première fois depuis les récentes frappes aériennes qui ont touché les camps et les environs. Les réfugiés ont informé le HCR de l'augmentation du nombre de décès évitables au cours des 6 dernières semaines, liées notamment à la détérioration de la situation et en particulier à l'absence de médicaments et de services de santé, les cliniques des camps étant pratiquement fermées depuis début janvier. L'écrivain ougandais Kakwenza Ruki Bashaija, arrêté pour propos offensants contre la famille du président Museveni, a comparu vendredi devant un tribunal lors d'une audience en visioconférence, en marge de laquelle son avocat a affirmé que son client a été torturé. C'était la première apparition publique de Kakwenza depuis son arrestation le 28 décembre après avoir publié sur les réseaux sociaux des commentaires critiques sur le président Yoweri Museveni et son fils Muhoozi Kainerugaba. En République démocratique du Congo, un rapport publié vendredi affirme que les exonérations douanières, souvent injustifiées, ont causé une perte d'au moins 6 milliards 300 millions de dollars américains aux caisses de l'État entre 2011 et 2020. Le rapport produit par le groupe Études du Congo, rattaché à l'Université de New York, affirme que certaines exonérations ont été utilisées pour faire du favoritisme et obtenir des pots de vin.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Au Ghana, une explosion provoquée par l'accident d'un camion transportant des explosifs pour une mine a fait au moins 13 morts et 59 blessés jeudi et dévasté une ville dans l'ouest de ce pays. Les précisions de Stanislas Kambashi.
L'explosion s'est produite vers midi jeudi à Apiaté, non loin de Bogoso, une ville minière située dans la région occidentale à environ 300 km à l'ouest d'Accra, la capitale de ce pays ouest africain riche en ressources minérales. Les autorités ghanéennes ont ouvert vendredi une enquête pour déterminer les circonstances et les responsabilités de l'explosion de ce camion bourré d'explosifs industriels. L'explosion a détruit des dizaines d'habitations et a laissé une énorme cratère au milieu de la route dans les villages d'Apiaté. Selon les premières constatations ont indiqué les autorités, le camion qui transportait les explosifs destinés à une mine est entré jeudi après-midi en collision avec une moto et un autre véhicule avant de s'enflammer. Les investigations devront déterminer si les réglementations concernant le transport d'explosifs ont été respectées et les circonstances qui ont mené à cette malheureuse tragédie, a indiqué dans un communiqué le ministère des Ressources naturelles. Le commandant de la police de la région a indiqué que le bilan s'est monté à 13 morts alors que jeudi 17 morts avaient été annoncés. Par ailleurs, 45 personnes se trouvaient toujours hospitalisées vendredi, a-t-il ajouté. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déploré un triste, malheureux et tragique accident et exprimé ses condoléances aux familles des victimes. L'État ghanéen a promis de pourvoir aux besoins matériels des victimes et de prendre en charge les frais médicaux.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine du jour consacré à l'actualité internationale, dans une présentation de Donasi Nyembo et de Stanislas Kambashi.
Donasi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir aimables auditeurs.
Allons en Syrie, où ce vendredi, les forces kurdes traquaient des combattants du groupe État islamique au lendemain d'une attaque contre une prison contrôlée par les Kurdes.
Des affrontements entre les forces démocratiques et des djihadistes de l'État islamique se poursuivaient à proximité de la prison. Les combats se poursuivaient vendredi dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité. La prison de Guaran, qui abrite de nombreux djihadistes, a effectivement été attaquée. Selon les forces démocratiques syriennes, dirigée par les Kurdes et une ONG, l'État islamique a fait exploser une voiture piégée à proximité de l'établissement et des combattants ont attaqué des forces kurdes gérant l'établissement pour libérer certains des membres de l'État islamique. À en croire l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, 5 prisonniers de l'État islamique ont réussi à s'échapper. La coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre l'État islamique a, de son côté, indiqué que les forces démocratiques syriennes avaient subi des pertes pendant l'attaque, sans préciser le nombre de victimes.
Toujours au sujet de l'État islamique, il est accusé d'avoir tué 11 soldats de l'armée irakienne lors d'une attaque nocturne, l'une des opérations les plus meurtrières depuis plusieurs semaines.
En Irak, 11 soldats, dont un lieutenant, ont été tués dans une attaque menée par des membres de l'État islamique visant une base de l'armée. L'attaque, qui n'avait pas été revendiquée à la mi-journée vendredi, a eu lieu aux environs de 2h30, soit 23h30 GMT, contre une base de la région de Awi al-Azim, située non loin de la province de Salaheddin. Le bilan a été confirmé par le gouverneur de Dilaya, Moutana al-Tamimi, qui a également critiqué la négligence des soldats.
Changeant de chapitre, Donatien, les chefs des diplomaties américaines et russes poursuivent les pourparlers pour tenter de désamorcer leur crise sur l'Ukraine.
Pas de percée vendredi entre les chefs de diplomatie américaine et russe, mais ils se parlent encore pour désamorcer leur crise sur l'Ukraine, aux portes de laquelle campe l'armée russe malgré les menaces des représailles occidentales. La rencontre entre Sergueï Lavrov et Anthony Blinken dans un palace de Genève est le dernier pas des deux d'un intense ballet diplomatique qui avait commencé par 2 conversations entre Vladimir Poutine et Joe Biden en décembre. Pour Washington, la perspective d'une incursion militaire russe en Ukraine est de plus en plus probable. Depuis des semaines, des dizaines de milliers de soldats sont déployés à la frontière ukrainienne. Le Kremlin, de sa part, dément tout bellicisme, mais conditionne une désescalade à des traités garantissant le non-élargissement de l'OTAN et une retraite de facto de l'Alliance d'Europe de l'Est. Inacceptable, disent les Occidentaux. Au début de pourparler, un Sergueï Lavrov courtois, tout comme son collègue, a dit ne pas attendre de percer, mais vouloir de réponses concrètes aux exigences russes. Il s'est dit disposé à écouter des contre-propositions s'il y en a.
Parlons Covid-19. Le Parlement autrichien avait adopté la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes.
C'était jeudi, l'Autriche est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie de Covid-19, malgré une virulente opposition dans la rue. La mesure entrera donc en vigueur le 4 février prochain. Dans la rue, de nombreux Autrichiens sont vent debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers. Le gouvernement imposera une amende allant de 600 à 3600 euros. L'objectif, affirme-t-il, n'est pas d'imposer la vaccination de force ni de multiplier les sanctions financières. Pourtant, l'amende sera levée si le contrevenant se faisait vacciner dans les deux semaines.
Il faudrait quand même souligner que ce vote intervient alors que l'Autriche enregistre un nombre record de cas sur fond de propagation du variant Omicron.
Oui, c'est vrai. Près de 30 000 infections en 24 heures avaient été recensées mercredi dans ce pays où il est habituel de se faire tester avant d'aller à un concert, par exemple. Environ 72% de la population de 8,9 millions d'habitants dispose à ce stade d'un schéma vaccinal complet. Un pourcentage inférieur à celui de la France ou de l'Espagne, par exemple.
Donatien, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir aimables auditeurs.
Allons en Syrie, où ce vendredi, les forces kurdes traquaient des combattants du groupe État islamique au lendemain d'une attaque contre une prison contrôlée par les Kurdes.
Des affrontements entre les forces démocratiques et des djihadistes de l'État islamique se poursuivaient à proximité de la prison. Les combats se poursuivaient vendredi dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité. La prison de Guaran, qui abrite de nombreux djihadistes, a effectivement été attaquée. Selon les forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes et une ONG, l'État islamique a fait exploser une voiture piégée à proximité de l'établissement et des combattants ont attaqué des forces kurdes gérant l'établissement pour libérer certains des membres de l'État islamique. À en croire l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, 5 prisonniers de l'État islamique ont réussi à s'échapper. La coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre l'État islamique a, de son côté, indiqué que les forces démocratiques syriennes avaient subi des pertes pendant l'attaque, sans préciser le nombre de victimes.
Toujours au sujet de l'État islamique, il est accusé d'avoir tué 11 soldats de l'armée irakienne lors d'une attaque nocturne, l'une des opérations les plus meurtrières depuis plusieurs semaines.
En Irak, 11 soldats, dont un lieutenant, ont été tués dans une attaque menée par des membres de l'État islamique visant une base de l'armée. L'attaque, qui n'avait pas été revendiquée à la mi-journée vendredi, a eu lieu aux environs de 2h30, soit 23h30 GMT, contre une base de la région de Hawi al-Azim, située non loin de la province de Salaheddin. Le bilan a été confirmé par le gouverneur de Dilaya, Moutana al-Tamimi, qui a également critiqué la négligence des soldats.
Changeons de chapitre, Donatien. Les chefs des diplomaties américaines et russes poursuivent les pourparlers pour tenter de désamorcer leur crise sur l'Ukraine.
Pas de percée vendredi entre les chefs de diplomatie américaine et russe, mais ils se parlent encore pour désamorcer leur crise sur l'Ukraine, aux portes de laquelle campe l'armée russe malgré les menaces des représailles occidentales. La rencontre entre Sergueï Lavrov et Anthony Blinken dans un palace de Genève est le dernier pas des deux d'un intense ballet diplomatique qui avait commencé par 2 conversations entre Vladimir Poutine et Joe Biden en décembre. Pour Washington, la perspective d'une incursion militaire russe en Ukraine est de plus en plus probable. Depuis des semaines, des dizaines de milliers de soldats sont déployés à la frontière ukrainienne. Le Kremlin, de sa part, dément tout bellicisme, mais conditionne une désescalade à des traités garantissant le non-élargissement de l'OTAN et une retraite de facto de l'Alliance d'Europe de l'Est. Inacceptable, disent les Occidentaux. Au début de pourparlers, un Sergueï Lavrov courtois, tout comme son collègue, a dit ne pas attendre de percer, mais vouloir de réponses concrètes aux exigences russes. Il s'est dit disposé à écouter des contre-propositions s'il y en a.
Parlons Covid-19. Le Parlement autrichien avait adopté la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes.
C'était jeudi, l'Autriche est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie de Covid-19, malgré une virulente opposition dans la rue. La mesure entrera donc en vigueur le 4 février prochain. Dans la rue, de nombreux Autrichiens s'en vont debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers. Le gouvernement imposera une amende allant de 600 à 3600 euros. L'objectif, affirme-t-il, n'est pas d'imposer la vaccination de force ni de multiplier les sanctions financières. Pourtant, l'amende sera levée si le contrevenant se faisait vacciner dans les deux semaines.
Il faudrait quand même souligner que ce vote intervient alors que l'Autriche enregistre un nombre record de cas sur fond de propagation du variant Omicron.
Oui, c'est vrai, près de 30 000 infections en 24 heures avaient été recensées mercredi dans ce pays où il est habituel de se faire tester avant d'aller à un concert par exemple. Environ 72% de la population de 8,9 millions d'habitants dispose à ce stade d'un schéma vaccinal complet. Un pourcentage inférieur à celui de la France ou de l'Espagne, par exemple.
Dans notre rubrique du jour consacrée au sport, nous parlons de la CAN 2021 au Cameroun. Après les phases de poule, débutent le dimanche 23 janvier prochain les huitièmes de finale. Nous en parlons avec Fernand Dédé, journaliste ivoirien, qui revient également sur les matchs de poule de cette CAN 2021.
La Covid a été la star pour ce premier tour. Des surprises, oui, avec l'élimination du tenant du titre, l'équipe de l'Algérie, qui est sortie après ses premiers matchs de poule, qui n'a pas donc pu rééditer comme elle aurait pensé. Voilà, n'a pas souri à l'Algérie. Eh bien, des surprises, il n'y en a pas véritablement pour les grandes nations. Le Cameroun est présent au rendez-vous du second tour. Le Nigeria est présent, l'Égypte également. La Côte d'Ivoire, attendue, est au rendez-vous. Avec la qualification des meilleurs troisièmes, des quatre meilleurs troisièmes, eh bien, favoriser les équipes comme les Comores qui font pour la première fois sensation en atteignant les huitièmes de finale. Il y a également la Gambie qui est au rendez-vous. Globalement, eh bien, on a vu quelques matchs de bon niveau, d'autres moins, des pelouses, notamment la pelouse du stade de Douala, de Japoma critiqué, qui a été objet de longs débats, et puis dans l'ensemble, la balle roule ici au pays de Paul Biya.
Alors, passé les matchs de poule, nous abordons les matchs pour les huitièmes de finale, déjà dimanche 23 janvier. Nous aurons des matchs comme Égypte, Côte d'Ivoire et Nigeria, Tunisie. Votre regard sur ces affiches?
Là, on a par exemple Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Maroc, Malawi. Et bien, les grands clubs, les grands pays de football sont au rendez-vous. Il y a également les petits poussés qui arrivent dans ce top 16-là, avec le Malawi, par exemple, qui fait d'énormes progrès. Il y a les Comores qui vont provoquer le Cameroun sur ses terres. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas évident. Il y a également la Gambie qui a fait sensation en battant la Tunisie pour se qualifier pour les quarts de finale. Eh bien, il y a la Guinée équatoriale face au Mali. Attention à cette Guinée équatoriale-là, cette équipe. Chaque fois qu'elle a participé, elle a franchi donc un pas. Et là, elle est en huitième de finale. Pourquoi pas avancer face au Mali. Il y a le Cap-Vert, étonnante équipe du Cap-Vert face à une équipe du Sénégal qui n'est pas encore entrée véritablement dans sa compétition. Il y a là un match qu'on pourrait qualifier de finale, hein, Nigeria-Tunisie. Le Nigeria a fait sensation, c'est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs de premier tour, et puis la Tunisie a titubé, deux matchs perdus, elle s'est qualifiée avec 3 points. Eh bien, il y a Burkina Faso, Gabon, Burkina, oui, et puis le Gabon qui a connu des problèmes avec la sortie de Pierre au pied Aubameyang, le meilleur joueur de cette équipe, qui a dû retourner dans son club pour indiscipline selon certaines informations. Alors ce sont des affiches qui vont tenir le public en haleine. On ne peut pas d'emblée pronostiquer pour l'une ou l'autre équipe. Chaque équipe a sa chance.
Fernand Dédé, journaliste ivoirien. La suite de cette rubrique, c'est avec vous Marie-Josée Moindo Boboalo.
Rendons-nous pour cela en Australie où un panel indépendant a remis vendredi son rapport contenant 150 recommandations afin d'éradiquer le sexisme dans le monde de fonctionnement de l'équipe nationale de natation. Le président de Swimming Australia, Kieran Perkins, s'est engagé à ce que sa fédération soutienne et encourage ce processus de changement comportemental positif. L'introduction de quotas pour augmenter le nombre d'entraîneurs, l'interdiction de l'emploi du terme physique ayant une connotation péjorative et discriminatoire en faisant référence à la taille et à la forme du corps des nageurs et nageuses sont quelques-unes des mesures préconisées dans ce rapport. Signalons aussi que la 45e édition de la Coupe du monde de biathlon se déroule entre le 27 novembre 2021 et le 20 mars 2022. La compétition se compose de 10 étapes, la première à Östersund en Suède, la dernière à Oslo en Norvège. Cette édition est la dernière qui intègre la season opening, étape d'ouverture plus courte que les autres. Cette édition est ponctuée du 4 au 20 février par les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. En outre, le championnat du monde des rallyes entre dans l'ère de la motorisation. Selon l'ancien président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, on aurait dû y arriver avant. En pratique, les voitures bénéficieront, en plus de leur moteur à combustion, d'une unité hybride permettant un boost de puissance. Par exemple, au départ d'une spéciale, les concurrents auront un surplus d'énergie limitée qui s'arrêtera s'ils freinent ou arrêtent d'accélérer. Enfin, un groupe d'experts médicaux dans le sport a critiqué mardi le cadre non contraignant publié mi-novembre par le Comité international olympique. Le Comité international olympique a décidé de laisser chaque fédération déterminer comment un athlète peut être avantagé de manière disproportionnée en tenant compte de la nature de chaque sport.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.